Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes sur votre radio préférée. J'espère que vous apprécierez l'émission de ce jour, qui s'intitule « Sur les traces du mythe grec ». Je serai comme d'habitude votre présentateur, Marvin, 20 ans, élève en classe préparatoire littéraire et toujours passionné par la mythologie grecque. Je m'apprête à faire une folie aujourd'hui, moi qui crains tant les araignées. Mais en même temps, ce travail est comme une catharsis qui m'a permis de voir en elle plus que l'objet d'une simple peur irrationnelle. Si vous me permettez, je voudrais commencer par un extrait du chant 12 du Purgatoire de la Divine Comédie de Dante. Celui-ci disait « Ô folle Arachné, je te voyais déjà à moitié araignée et triste sur les débris de la toile que par malheur tu ouvris. » On retrouve d'emblée cette idée d'une faute commise de la personne qui outrepasse ce qui lui est permis de faire. La référence au fait d'ouvrir n'est pas sans rappeler le mythe de la boîte de Pandore. Elle aussi avait été au-delà de ses limites, et c'est ce qui l'avait conduit à sa perte. Mais avant de rentrer dans le vif de l'histoire qui va nous intéresser, il faut se rappeler qu'Arachné était une jeune fille comme les autres, assez belle, dit-on, et surtout d'un grand talent pour le tissage, comme nous allons le voir. Elle était d'origine lydienne, c'est-à-dire originaire d'une région d'Asie mineure, ce qui correspondrait actuellement à la Turquie. C'est donc une sphère géographique qui a d'ailleurs toujours été intimement liée aux soieries et aux tapisseries, ce qui offre un cadre particulièrement propice à l'histoire qui va nous intéresser. La jeune fille était en permanence entourée par une foule qui ne cessait de croître, qui venait de jour en jour admirer le travail minutieux et rayonnant d'Arachné. Elle était une véritable personnalité locale, une star du tissage, d'une certaine manière. Tout le monde s'entassait autour de son métier à tisser, comme fasciné, absorbé par les doigts graciles de l'ouvrière, s'attelant à réaliser un chef-d'œuvre jour après jour. Sa famille était assez pauvre cependant, mais cela ne l'avait pas empêché de développer son talent et son art, à tel point qu'elle a pu sortir sa famille de la misère. C'est peut-être ceci, et aussi le fait d'être appréciée et reconnue alors qu'elle n'avait rien, qu'a contribué à faire naître en elle une grande fierté et une forme d'orgueil. Le problème est qu'elle va outrepasser les limites de cet orgueil et faire preuve d'hubris, c'est-à-dire de démesure, et c'est ce qui va précipiter sa chute. En effet, un jour, elle osa affirmer que son habileté et ses ouvrages dépassaient de loin ceux de la déesse Athéna. Or, Athéna, surtout sous sa forme latinisée de Minerve, est associée à l'artisanat et donc au tissage. C'est alors une véritable provocation, un affront fait à la déesse. Et bien qu'Athéna soit la déesse de la stratégie guerrière et surtout de la sagesse, elle ne peut s'empêcher d'être outrée par le comportement de la jeune Arachné. Et pourtant, ce n'est pas une nouveauté qu'une déesse se sente en rivalité avec une humaine, au point de vouloir s'en venger. C'était déjà arrivé à la belle Psyché, qu'Aphrodite, jalouse, avait voulu voir périr, car tout le monde la disait digne de rivaliser avec la déesse de l'amour et de la beauté. Le problème, c'est que les dieux sont orgueilleux, tout comme les hommes. Aussi grands qu'ils soient, ils sont ce que nous sommes, et ils peuvent se tromper comme nous autres. La différence réside, toutefois, dans le fait que, pour eux, les excès sont permis, alors que pour les êtres humains, ce serait une faute impardonnable, une faute qui relèverait de l'hubris, de la démesure. Et le fait qu'une humaine soit comparée à une déesse, eh bien c'est un véritable sacrilège pour celle-ci. C'est comme mélanger les torchons et les serviettes. C'est impossible de concevoir cela à l'époque, et dans le cadre de ce mythe. Un souci demeure, les dieux sont plus puissants que les hommes, et ce sont toujours ces derniers qui en paient les frais. Il faut bien que les dieux aient le dernier mot. Alors, Athéna décide de se prendre les traits d'une femme assez âgée, voulue comme incarnation de la sagesse. Et elle va se rendre auprès d'Arachné, espérant la rappeler gentiment à l'ordre, et lui faire se rappeler que les humains doivent honorer les dieux, et non se comparer à eux. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Arachné ne prend pas du tout au sérieux son aîné et persévère dans son orgueil. Arachné va même jusqu'à dire être prête à défier la déesse. Alors, ne tenant plus, en faisant voler en éclats l'illusion qui faisait croire à tous qu'elle n'était qu'une femme âgée, Athéna se révèle et défie Arachné au cours d'une épreuve de tissage. Celle d'entre Athéna et Arachné qui fera la plus belle tapisserie aux yeux du public qui les entourait, serait alors considérée comme la plus grande des tisseuses. Athéna décide, de son côté, de représenter un épisode qui sied à sa gloire, à son triomphe. Autrement dit, elle représente sa confrontation avec Poséidon pour le patronage d'Athènes. C'est une manière pour elle de rappeler, par le sujet même qu'elle traite, sa supériorité, non seulement sur les hommes, mais aussi sur des dieux majeurs, Poséidon étant l'un des trois dieux qui se sont partagés les sphères du monde. Et donc, par là, Athéna entend écraser de façon presque irrémédiable et à l'avance la jeune Arachné. En effet, Arachné ne peut qu'être dépassée par la revendication de pouvoir qu'entreprend Athéna dans sa tapisserie, comme si tout était déjà joué d'avance. Pour ce qui est d'Arachné, celle-ci décide de représenter Zeus sous les diverses apparences qu'il prit pour séduire des mortels. Ainsi, dans sa tapisserie, elle le représente en cygne, rappelant la fois où il avait séduit Léda, et elle le représente également en taureau, en souvenir de sa tentative de séduction d'Europe. Allez jeter un petit coup d'œil à ces histoires, elles valent le détour, et à elles seules une émission tout entière, je pense. Mais pour en revenir à notre confrontation entre Athéna et Arachné, eh bien, pour synthétiser les choses, il faudrait dire qu'Athéna représente les dieux dans toute la force de leur pouvoir et de leur supériorité, tandis qu'Arachné décide de représenter, par l'intermédiaire du roi des dieux, de façon métonymique, c'est-à-dire une partie qui vaut pour le tout, eh bien, elle entend représenter l'ensemble des dieux dans leurs vices et dans leurs travers, d'une façon éminemment satirique. Et par là, elle s'enfonce de plus en plus dans son orgueil, en osant défier une seconde fois l'autorité divine. Deux versions existent pour témoigner de l'issue de ce concours qui opposa la déesse et l'humaine Arachné. Dans une première, tout le monde reconnaît le talent de la jeune fille, et furieuse, Athéna déchire la réalisation de la tisseuse. Celle-ci décide alors de se pendre. Et prise de remords, Athéna l'aurait sauvée au dernier moment et l'aurait transformée en araignée pour lui permettre de vivre et de tisser indéfiniment. Toutefois, cette version est simpliste et ne permet pas d'explorer le potentiel de ce mythe. Cette version nivelle l'acte d'ôter sa propre vie, alors que dans l'Antiquité, ce n'est pas anodin, comme nous le verrons. En effet, dans cette version, l'acte n'a pas de résonance et la déesse semble éprise de pitié. Or, Athéna, si elle est juste, est implacable avec ses adversaires. D'où, à mon sens, la seconde version sera beaucoup plus intéressante à étudier et également à raconter. La seconde version traite en effet de la relation des dieux et des hommes et soulève la question de la représentation des dieux, à une époque où il n'est pourtant pas blasphématoire en théorie de représenter les dieux avec des vices de nature humaine. Toutefois, Athéna aurait été outragée de cette représentation de son père, le roi des dieux, pris en flagrant délit de séduction de jeunes filles innocentes, se déguisant pour mieux abuser d'elle, comme je vous le disais avec Léda, ou encore avec Europe. Athéna décide alors d'une punition divine afin de rétablir l'ordre face à ce qu'elle estime être un manque de respect. Arachné aurait été trop loin. Et par là, Athéna aurait alors agi par impulsivité, réagissant humainement aux accusations qu'elle sait vraies concernant les épisodes les moins glorieux impliquant les Olympiens. Ceci venant confirmer ce que dit le tissage, ce que dit la tapisserie. Les dieux réagissent humainement, sont anthropomorphisés, au sens où ils ont des traits qu'ils partagent avec les hommes. Mais on pourrait également dire et soutenir réflexion sur la... Est-ce qu'il est possible qu'Athéna, étant la déesse de la guerre réfléchie, ait pu se montrer impulsive? C'est une question qui reste entière. Cependant, cette seconde version est riche en symbolique. C'est pourquoi nous la retiendrons. Et avant de nous quitter pour un court instant, vous pourrez écouter un petit morceau de musique inspiré de la Grèce antique, eh bien, j'aimerais souligner un point que je trouve assez intéressant à remarquer dans une version comme dans l'autre du dénouement de ce concours. Il faut prendre conscience que d'une certaine manière, Arachné meurt au sommet de sa gloire, alors qu'elle vient d'achever son ouvrage le plus réussi de tous, et qu'elle est enfin pleinement reconnue. Elle a atteint son plein potentiel. Il ne reste plus rien à entreprendre. Dès lors, sa mort vient, d'une certaine manière, la récompenser et couronner l'achèvement de l'œuvre de sa vie. La mort serait presque un présent qu'Athéna lui ferait, afin d'honorer le talent de la jeune femme, comme afin de l'immortaliser au sommet de sa gloire. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Bien, ravi de vous retrouver. Comme je le disais, nous resterons sur le second scénario pour continuer à découvrir l'étendue de ce mythe. Athéna estime donc la réalisation d'Arachné comme une insulte envers les Olympiens et envers son père plus précisément. Elle décide donc de faire en sorte que la jeune femme réalise l'ampleur de l'outrage lié à ce qu'elle avait tissé, et pour cela, elle va la toucher au niveau du front avec son fuseau. Et ce geste a un pouvoir de révélation. Il y a un terme qui désigne la nature de cette révélation en grec. Il s'agit du concept de l'aletheia, ce qui revient à dire ôter le voile. C'est d'une certaine manière le fait de retirer le voile qui cache la vérité afin qu'elle émerge au grand jour. Alors, imaginez la surprise de la jeune femme, de la jeune Arachné, qui se rend compte de l'erreur impardonnable qu'elle avait faite, poussée par son hubris et par la démesure vers une forme d'orgueil excessive, au point de se croire supérieure aux dieux. Elle n'en menait pas large, loin de là. Et dans ces circonstances, Athéna estimait avoir vengé l'honneur des dieux par la punition qu'Arachné s'inflige à elle-même. Arachné qui se sent des plus coupables. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et avoir une bien jolie morale, comme dans certaines fables. La jeune fille se rendit compte des excès qu'elle avait pu causer, et se remit dans le bon et le droit chemin, en honorant et en respectant les dieux, ne se croyant plus supérieure à eux, et respectant sa place dans l'ordre naturel du cosmos. Elle se rachète, fait preuve de piété. Fin de l'histoire. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là, bien au contraire. Arachné, sous l'effet de l'hubris et de l'orgueil toujours, ne peut survivre à cet affront, celui de se sentir rabaissée par la déesse et de se rabaissée elle-même par son comportement. Or, la ligne limite est franchie. Il n'est plus possible de faire marche arrière. Elle se précipite alors pour se suicider. Certains disent qu'elle l'aurait fait par honte, mais ce serait plus certainement par orgueil, pour ne pas accepter de s'avouer son erreur. Elle utilise ce même fil dont elle s'était servie toute sa vie pour tisser. Elle l'enroule autour de son cou pour mettre fin à ses jours. Et au moment de passer à l'acte, Athéna va intervenir. Mais avant de parler de cette intervention, je voudrais juste souligner le fait que la métaphore du fil est intéressante ici. Elle renvoie à la tradition des Parques, c'est-à-dire les sœurs du destin, qui déroulaient le fil de la vie, le filaient et finissaient par le couper, mettant fin ainsi à une existence par la même occasion. De cette manière, le fil est véritablement un lien fort, un symbole fort qui unit la vie et la mort, qui représente la rupture de la vie, en fait. D'une certaine manière, la rupture du fil équivaut à la rupture de la vie. Donc, on aurait pu estimer qu'Athéna se serait contentée de la mort de la fautive qui avait défié sa personne sans trop le vouloir, emportée par son orgueil. Mais ce serait sans compter sur l'intervention de la déesse qui obéit à un principe social de l'époque. Le suicide est interdit et est fortement réprouvé. C'est une C'est donc une énième et ultime faute que commet Arachné, la dernière manifestation de son hubris, osant outrepasser sa propre condition et s'approprier le fil des parcs pour décider elle-même de sa propre mort. Elle décide de prendre son destin en main alors que le choix de la vie et de la mort appartient à des entités qui dépassent les hommes, alors que le choix de la vie et de la mort appartient aux dieux. D'où cette intervention de la déesse Athéna. Celle-ci décide de punir la jeune fille et la transforme en une créature laide et repoussante. La première araignée. Mais d'une certaine manière, on pourrait concevoir une certaine forme de pitié aussi dans les agissements d'Athéna. En effet, elle permet à Arachné, dans son châtiment, de continuer d'exercer sa passion, qui est le tissage. L'important est qu'Athéna s'est débarrassée de celle qui lui faisait de l'ombre, n'étant plus une humaine capable de faire, d'entacher, d'une certaine manière, la réputation de la déesse. Une situation qui soulignait un déséquilibre des forces qui n'était absolument pas admissible dans la mentalité de l'époque. Et notons que par le choix de la métamorphose plutôt que de la mort, Athéna sanctionne l'arrogance d'Arachné en même temps qu'elle reconnaît, par le choix de cet animal, son excellence dans l'art de tisser. Quoi qu'il en soit, la malédiction devait frapper toute la descendance d'Arachné. Cette malédiction, la voici. Vie, mais reste suspendu. Tu te prétends si doué pour le tissage. Eh bien, tu tisseras toute ta vie. L'amertume et l'ironie transparaissent à travers ces mots que nous rapporte Ovide dans ses métamorphoses. Mais il faut aussi comprendre qu'Arachné, si elle a violé les ordres divins et humains, trouve pourtant sa place dans l'ordre naturel. Comme s'il était impossible de concevoir des électrons libres qui ne rentrent pas dans des cases prédéfinies, eh bien, l'histoire va d'une certaine manière permettre d'intégrer Arachné à l'ordre des choses. Aussi, par la métamorphose, en précipitant Arachné dans la bestialité, eh bien, la transformation d'Arachné en animal a pour conséquence de souligner le fait que l'animal peut surpasser l'humanité, nous invitant ainsi à réfléchir sur la limite de l'être humain et peut-être aussi sur les limites de ce système représentatif arbitraire qu'il a développé, rendant impossible ces électrons libres dont je vous parlais, ces électrons qui ne pourraient rentrer dans des cases prédéfinies. L'équilibre est ainsi rétabli et tout peut rentrer dans l'ordre. Et selon le principe de la causalité cher aux anciens Grecs, l'origine des araignées était ainsi actée pour de bon. Sur ce, quelques notes de musique vont nous faire le plus grand bien et nous nous retrouverons après afin de continuer notre réflexion autour de ce mythe fascinant. Thank you. Si vous avez l'occasion de trouver une araignée tissant sa toile, observez-la, à distance bien sûr, mais laissez-vous fasciner par sa maîtrise presque magique du tissage. Il y a une certaine grâce à la voir assembler les fils arachnéens qu'elle produit à partir d'elle-même. Nous aurions presque là une interrogation sur le statut de l'artiste créateur et la nature de son aspiration. L'artiste puise-t-il en lui-même ses idées, comme l'araignée qui puise en elle-même son fil? Où l'idée vient-elle d'ailleurs? L'araignée est une figure démiurgique, c'est-à-dire une figure qui crée, à partir de rien, à partir d'elle-même. Et si je vous raconte cela, ce n'est pas anodin. Parce qu'en effet, pour les anciens Grecs, l'inspiration était liée à un état de transe, ou de connexion directe avec le divin. C'est donc le divin qui déposait l'idée créatrice en l'homme, qui n'était alors plus qu'un simple réceptacle et un simple orfèvre, censé donner vie à ce que les dieux lui ont révélé en lui chuchotant à l'oreille. Or, et c'est une ultime revanche de la part d'Arachné, un ultime défi qu'elle oppose aux dieux, eh bien Arachné revendique une indépendance créatrice de son génie vis-à-vis des dieux. En effet, devenant araignée, elle continue de créer à partir de la substance qu'elle produit elle-même, contestant ainsi l'intervention du divin, revendiquant l'indépendance de son génie créateur. N'oublions pas que c'est là même l'origine de la confrontation entre Athéna et Arachné. La fière tisserande refuse qu'on s'attribue les mérites qui sont les siens. Elle refuse qu'on attribue ses mérites à l'enseignement de la déesse Athéna. Celle-ci, je parle d'Arachné, estime avoir appris par elle-même et s'être donné les moyens de réussir. Dans sa conception, ses idées et son inventivité sont le fruit de sa propre personne. Ainsi, par-delà le châtiment, Arachné continue de revendiquer ses positions et demeure engagée dans sa conception des choses, dans la défense de son statut d'artiste créateur. Donnons la parole à Ovide encore une fois pour comprendre ce petit passage. Fileuse araignée, elle exerce encore son premier talent et tire du ventre arrondi qui remplace son corps les fils déliés dont elle ourdit sa toile. Tiré des Métamorphoses, ce petit passage nous renvoie au fait qu'effectivement, Arachné, en tant qu'araignée, va continuer de puiser en elle-même la matière brute qui va lui servir à son activité créatrice. Cette réflexion sur le statut de l'artiste créateur doit déboucher également sur une réflexion autour du statut féminin dans la Grèce archaïque, ou du moins un élément d'approche culturellement situé. Le tissage est le propre des femmes. Le récit semble instaurer ainsi une stricte séparation entre les sexes et les activités qui les caractérisent, conformément à un adage connu depuis Homère, la guerre aux hommes, le tissage aux femmes. L'habileté manuelle est l'une des qualités majeures que l'on requiert des femmes dans le monde grec. Déesses comme héroïnes épiques excellent dans le tissage. Leurs œuvres sont marquées du sceau de leur personnalité et jouent un rôle particulièrement présent, particulièrement important dans nos nombreux mythes. Que ce soit les fresques de bataille qui sortent des mains d'Hélène, que ce soit le tissage et le détissage alterné de Pénélope dans l'Odyssée, afin de faire patienter les prétendants en attendant le retour d'Ulysse, ou que ce soit le voile transparent et trompeur de Clytéménestre qui piège et fait trébucher Agamemnon, le tissage est le domaine où la société lui accorde une reconnaissance. Et ce, d'autant plus que la représentation que l'on se fait des dieux et l'ensemble du corpus mythique sont véhiculés par les œuvres d'art, et notamment par les tapisseries. Or, les mythes étant ce qui fonde les valeurs communes, ils participent pleinement de la civilisation. Et dès lors, le rôle de la femme se trouve renforcé dans son statut de transmission de la civilisation, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant qu'elle témoigne des légendes de son peuple. Notons également que par le port des vêtements tissés, les anciens Grecs concevaient un critère de civilisation. Ainsi, les techniques féminines du travail de la laine constituent l'apport des femmes à la civilisation grecque. Et si Arachné est stigmatisée par son activité de tisseuse, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas appris le métier par la transmission maternelle, rompant avec l'idée d'un ordre absolu et d'une transmission qui est le garant d'un respect de la tradition et de l'ordre. Arachné est une autodidacte. Elle refuse cette transmission culturelle et religieuse, et par là, Elle défie la déesse, qui est considérée comme celle qui accompagne l'enseignement du tissage aux jeunes femmes. Aussi, l'idée d'une émancipation féminine à travers le geste d'Arachné est particulièrement intéressante et légitime, étant donné que le sujet que développe Arachné dans son ouvrage concerne les amours des dieux mâles, leur intense activité sexuelle, leur goût pour les femmes, mais aussi pour quelques déesses, et l'ingéniosité, morbide parfois, qu'ils mettent en œuvre pour les séduire. Ainsi, en dénonçant ces agissements, Arachné revendiquait une forme de contestation féminine au cœur de l'ordre patriarcal grec. D'où aussi, et peut-être avant tout, le caractère dérangeant de ce mythe dans la conception de la Grèce antique, parce que celle-ci conçoit un cosmos au sens d'un univers parfaitement ordonné et cohérent, dont la moindre perturbation affecterait tout l'ensemble. Et ce, surtout qu'Arachné, en tant qu'elle représente les amours des dieux, distille dans sa tapisserie du désir et du plaisir. Il est alors probable que pour les Grecs, parce qu'elle est jeune fille, elle est accusée d'avoir commis un péché. Elle aurait dû s'en tenir à un sujet plus chaste, se cantonner au tissage virginal, au lieu de se lancer dans des sujets aussi audacieux. D'où la revendication d'Arachné est problématique, et d'où plus encore que pour avoir défié la déesse, eh bien Arachné est coupable d'avoir osé remettre l'ordre social autant que l'ordre divin en question. Ce n'est peut-être donc pas un hasard si des artistes contemporaines, j'insiste sur le féminin, ont fait du symbole de l'araignée un symbole fort de leur émancipation dans le monde de l'art. On songe à la démesure des araignées de Louise Bourgeois, dont l'une fait plus de 9 mètres de long, renvoyant ainsi à cette tradition de la femme qui était à l'origine artiste par le tissage et par filiation directe avec cette première revendication féminine artistique de la part d'Arachné. Et c'est sur ce que je terminerai cette émission. J'espère que ce petit détour dans les mythes grecs d'un autre temps vous aura plu. Et je vous souhaite bon courage à toutes et à tous durant ces temps incertains. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.